VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso et Chérubin Dorsil.
Bienvenue à l'édition du mercredi 2 septembre 2015. À la une ce soir.
Burundi, affrontement nocturne à Bujumbura, au moins 4 morts dans plusieurs quartiers au lieu de la contestation contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Le procès de Bosco Ntaganda, ex-général et chef de milice en RDC, s'est ouvert ce mercredi à la Cour pénale internationale.
En RCA, le président du CNT émet des doutes quant au respect du chronogramme électoral.
On n'a pas terminé l'enregistrement des électeurs à l'intérieur du pays. Il y a des problèmes de sécurité dans certaines régions.
On écoutera les récentes déclarations d'Alexandre Ferdinand Nguendé.
Présidentielle en Guinée, 8 candidats dont le chef de l'État sortant, Alpha Condé, et une femme ont déposé leur dossier de candidature pour l'élection présidentielle fixée le 11 octobre.
Des milliers de migrants poursuivent ce mercredi leur odyssée vers l'Union européenne.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout de suite le journal. Ouverture à la haie du procès de Bosco Ntaganda. L'ancien chef de milice en République démocratique du Congo est accusé de 18 crimes, mais il a plaidé non coupable. Idriss Fall.
Bosco Ntaganda, 41 ans, est accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont des meurtres, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavage sexuel. Il est le premier accusé en droit pénal international à répondre de viols et d'esclavage sexuel. Parlant en Kinyarwanda, sa langue natale, il a plaidé non coupable de toutes les charges retenues contre lui. Au cours du procès qui va durer des années, plus de 70 témoins seront cités à la barre. Bosco Ntaganda n'est poursuivi que pour les violences en Ituri en 2002 et 2003, mais il a été de toutes les guerres qui ont déchiré la région, du génocide au Rwanda à la dernière rébellion du M23 en RDC. Réputé avoir la gâchette facile, il a été surnommé le Terminator. Promis général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, Ntaganda était recherché par la Cour pénale internationale. Il s'est rendu lui-même en mars 2013 à l'ambassade américaine de Kigali au Rwanda pour demander son transfert à la CPI.
Nous reviendrons sur le procès de Bosco Ntaganda en seconde partie d'émission. En RDC, le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, Martin Kobler, quittera ses fonctions le 31 octobre, ont annoncé ce mercredi les Nations Unies à Kinshasa. Le diplomate allemand avait pris ses fonctions à la tête de la MONUSCO en juillet 2013, après avoir été représentant spécial de l'ONU en Irak.
En Centrafrique, le projet de constitution adopté dimanche par le Parlement de transition sera en principe soumis le 4 octobre prochain à un référendum. Mais pour sa part, le président du CNT émet des doutes quant au respect du chronogramme électoral initialement élaboré par les autorités nationales des élections. Alexandre Ferdinand Nguendé, joint par Félix Yepassi Zembo.
La représentation nationale avait émis quelques inquiétudes au chronogramme annoncé par l'autorité nationale des élections en commun accord avec le pouvoir exécutif. Et à l'époque, nous avons émis des inquiétudes en précisant que les dates avancées par l'autorité nationale des élections étaient trop serrées et que c'était surréaliste et il fallait étudier étape par étape avant de sortir un chronogramme en tenant compte des difficultés réelles du pays. Mais j'avais pas été compris et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. On n'a pas terminé l'enregistrement des électeurs à l'intérieur du pays. Il y a des problèmes de sécurité dans certaines régions. Donc le pays, l'autorité nationale des élections ne dispose pas de fichier électoral. Donc c'est là que nous disons que ces dates sont surréalistes et qu'il fallait réfléchir et dégager un large consensus en tenant compte des difficultés avant de sortir une date.
Alexandre Ferdinand Nguendé, président du Conseil national de transition, le Parlement provisoire de la RCA.
Au moins 50 soldats de l'Union africaine auraient été tués dans l'attaque de leur base mardi en Somalie. Ce sont les estimations de l'AMISOM pour l'attaque de la base de Jalané, dont les Chebabs se sont un temps rendus maîtres. Au total, une centaine de soldats manqueraient à l'appel.
En Guinée, la Cour constitutionnelle a officiellement bouclé mardi la réception des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 11 octobre. La Cour constitutionnelle doit valider ces candidatures avant l'ouverture de la campagne, n'est-ce pas Zakaria Camara ?
Ils sont 8 à avoir versé 800 millions de francs guinéens, une somme qui représente la caution fixée par la Commission électorale nationale indépendante. Chacun est passé devant le collège de médecins pour une visite médicale comme prévu par le code électoral. Si la Cour constitutionnelle valide tous les dossiers, Alpha Condé, président sortant, devrait compétir avec les anciens premiers ministres Sélou Alain Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté. Mais également dans le starting block, l'un de ses conseillers, Papa Koly Courmant, Fayami Limono et l'ancien ministre Georges Gandhi Tunkara Faragay. Une femme ferme la liste. Peu connue du grand public, Madame Marie-Madeleine Djoubaté est l'une des surprises de cette élection. L'autre surprise reste l'absence de Jean-Marie Doré. L'ancien premier ministre n'est pas candidat à une élection pour la première fois depuis 1993. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Conflit au Soudan du Sud, Washington brandit la menace de sanctions à l'ONU contre les belligérants accusés de violer le cessez-le-feu en vigueur, en théorie, depuis quelques jours. Dans un communiqué, le département d'État a condamné les derniers combats dans deux provinces du Soudan du Sud, exhortant toutes les parties à mettre fin immédiatement aux actes provocateurs et hostiles. Vendredi dernier, le Conseil avait adopté à l'unanimité de ses 15 membres une déclaration appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan du Sud et avait brandi la menace de sanctions contre les belligérants qui violerait l'accord de paix signé la semaine dernière à Djouba.
Afrique du Sud, deux Mozambicains ont été condamnés à 11 ans de prison, chacun pour avoir braconné des rhinocéros dans le célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud, a annoncé la police sud-africaine. Les deux hommes âgés de 22 et 23 ans ont été reconnus coupables de possession illégale d'armes et de munitions et d'entrée illégale dans le parc. Lundi, par le tribunal de White River, ils avaient été arrêtés le 27 octobre 2014 par des rangers du parc frontalier avec le Mozambique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Près de 4500 réfugiés et migrants juste débarqués au Pirée, près d'Athènes, en Grèce, étaient à pied d'œuvre aujourd'hui pour poursuivre leur odyssée vers le nord de l'Union européenne où un renforcement des contrôles frontaliers commençait à s'imposer. Jacques Aristide.
Ces nouveaux arrivants sur le continent sont syriens pour la plupart. Depuis le début de l'année, la Grèce a comptabilisé le chiffre record de 160 000 arrivées sur quelque 350 000 personnes au total qui ont tenté le passage de la Méditerranée. Les autorités grecques les laissent passer et emprunter la route des Balkans, généralement en direction de l'Allemagne, mettant au passage la Hongrie sous haute pression. Une centaine de migrants ont ainsi manifesté aujourd'hui devant la principale gare de Budapest, alors que la police empêchait 2000 d'entre eux de monter dans des trains pour l'Autriche et l'Allemagne. La fuite vers l'Europe a aussi fait de nouveaux morts. L'Organisation internationale pour les migrations a déjà comptabilisé 2643 personnes noyées en tentant de franchir la Méditerranée depuis le début de l'année. Par ailleurs, la liaison ferroviaire entre la France et l'Angleterre a été interrompue pendant des heures dans la nuit de mardi à mercredi après l'intrusion de migrants sur les voies de l'Eurostar. L'Allemagne a défendu la liberté de circulation dans l'UE tout en demandant à ses voisins de mieux contrôler les frontières. La mise en place d'une réponse européenne coordonnée doit être au centre d'entretien demain à Athènes entre les autorités grecques et la Commission européenne.
Nucléaire iranien, le vote prévu au Congrès d'ici au 16 septembre peut après tout n'être que de la politique politicienne, même si le vote est négatif dans les deux chambres, qui sont dominées par les Républicains. Il sera quasiment impossible d'atteindre la majorité des deux tiers au Sénat pour passer outre un veto présidentiel. En effet, 34 sénateurs démocrates se sont déjà prononcés en faveur de l'accord qui n'a reçu aucun soutien républicain à ce jour. La plupart de ces démocrates ont estimé, malgré leurs réserves, que l'accord du 14 juillet est la meilleure option pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
En Irak, 18 travailleurs turcs ont été enlevés dans la capitale Bagdad par des hommes en tenue militaire. Les otages étaient au service d'une entreprise de construction qui érige un stade de football à Habibia, dans le secteur nord-est de Bagdad. Le rapt a eu lieu vers 3h du matin après que les gardes sur les lieux ont été désarmés. On se souvient que l'an dernier, les djihadistes du groupe État islamique avaient kidnappé 49 Turcs au consulat de Turquie à Mossoul. Le groupe qui comprenait les diplomates, des soldats et des enfants avait passé plus de 3 ans en captivité.
Recrudescence de la criminalité aux États-Unis, les statistiques sont à la hausse et les autorités se perdent en conjecture pour expliquer l'augmentation fulgurante des meurtres dans les villes américaines. Jean-Roger Bion.
Le New York Times affirme que plus de 30 villes à travers les États-Unis ont signalé un pic dans le nombre d'homicides cette année par rapport à la même période en 2014. 105 personnes ont été tuées cette année à Washington, D.C., alors qu'à la même période l'année dernière, l'on dénombrait 73 meurtres dans la capitale des États-Unis. Un nombre d'homicides à trois chiffres a également été constaté dans des villes comme Milwaukee, dans le Wisconsin, Saint-Louis, dans le Missouri et la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. La hausse inattendue du nombre de meurtres en 2015 après plusieurs années de baisse régulière a mis la pression sur les politiciens et les forces de l'ordre pour trouver des solutions à l'hécatombe. Certains disent que les policiers sont devenus moins agressifs à la suite des manifestations d'envergure nationale consécutives elles-mêmes à une série de décès d'Afro-Américains en garde à vue. Mais le Times affirme que de nombreux policiers de haut rang voient de plus en plus chez les jeunes des quartiers pauvres la volonté d'utiliser la violence pour régler des litiges ordinaires. Plus de 70 représentants de certaines des plus grandes villes aux États-Unis ont tenu un sommet d'urgence le mois dernier pour régler le problème. Le Times note toutefois que le taux global de criminalité reste loin en deçà des sommets observés à la fin des années 80 et au début des années 90.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Eric Manirakiza.
La publication hier de mauvais indices chinois a fait rechuter lourdement les bourses mondiales et le prix du pétrole. Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 essaieront en fin de semaine à Ankara de calmer les marchés sur fond de chaos chinois, de ratés dans les pays émergents et d'angoisse monétaire. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a déjà averti que la croissance mondiale en 2015 serait probablement plus faible que prévu, soit 3,3% jusqu'ici. Au Cameroun, le consortium constitué de logisticiens français Necotrans et de Kribi Port Multi Operators, un regroupement de 9 entreprises camerounaises, a décidé d'investir un montant de 26,2 millions d'euros sur les 20 prochaines années. Selon le président de Necotrans, Gregory Carrel, le nouveau investissement permettra d'augmenter les cadences de manutention et les zones de stockage pour que le port de Kribi soit le plus compétitif possible, et ce, en complémentarité avec le port de Douala. En Éthiopie, le premier ministre Haile Mariam Desalegn a ouvert officiellement à Addis Abeba, à l'hôtel Sheraton, le forum de trois jours sur les entreprises et l'investissement en Afrique et au Japon. Objectif : soutenir le développement du secteur privé. Le vice-ministre des Affaires étrangères Kazuyuki Nakane a pris part à ces cérémonies où plus d'une centaine d'entreprises japonaises sont présentes.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric. Et on termine cette première partie de l'émission avec les sports.
Bagassi Koura, bonsoir. En football, des absents notables au sein des éléphants lors de la deuxième journée.
Oui, les Ivoiriens Wilfried Bonny et Max Alain Gradel, qui jouent tous en Angleterre, blessés, ne disputeront pas le match de la deuxième journée des qualifications de la CAN 2017 contre la Sierra Leone dimanche au Nigeria. Au Nigeria, en raison bien sûr d'Ebola, ces deux absences s'ajoutent à celle de Yaya Touré, capitaine des éléphants, vainqueur de la CAN 2015 et qui aurait décidé de prendre un peu de recul pour l'instant. Le sélectionneur français Michel Dussuyer a fait appel à l'attaquant Roger Assalé qui joue en RDC au TP Mazembe.
Peut-être un Africain Bagassi pour remplacer Sepp Blatter à la tête de la FIFA?
Oui, c'est du moins ce que veut croire Segun Odegbami, 63 ans. Cet ancien capitaine des Super Eagles du Nigeria et membre de la sélection championne d'Afrique des Nations en 1980 s'est lancé dans la campagne pour devenir président de la FIFA.
Et où se tiendront les Jeux du Commonwealth en 2022?
Eh bien, Durban, toujours en Afrique du Sud, a été désigné officiellement à Auckland, en Nouvelle-Zélande, par la Fédération des Jeux du Commonwealth. Elle sera la première ville africaine à accueillir ces Jeux.
Et en Afrique du Sud, on parle de racisme et de rugby.
Oui, le juge sud-africain chargé d'examiner une plainte visant à empêcher les Springboks de participer à la Coupe du monde de rugby en raison du nombre trop élevé de blancs dans l'équipe dénonce la lenteur de son pays à se réformer sur le plan racial. La transformation en matière raciale est un sujet d'intérêt national, mais elle s'effectue de façon très lente, a déploré le juge Ntendeya Mavudla à la Haute Cour du Nord, Gauteng, à Pretoria, Lors d'une audience de l'examen de la plainte déposée par un tout petit parti politique, l'Agence pour un nouveau programme qui estime que le nombre de joueurs blancs dans la sélection des Springboks, 22 contre 31, selon la Fédération sud-africaine, est trop élevé.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Rubin Dorcil et Tatiana Mosso en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, la RDC. Mais pour parler d'un dossier qui se déroule aux Pays-Bas, le procès de Bosco Ntaganda, l'ancien chef rebelle congolais, se retrouve ce mercredi devant les juges de la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour 18 chefs d'accusation.
À quelques heures de l'ouverture de ce procès, le bureau du procureur, la défense et les représentants des victimes de Bosco Ntaganda ont tenu une conférence vidéo mardi en direct à La Haye. Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a suivi le débat en direct du bureau de la CPI RDC. On écoute son reportage.
Bosco Ntaganda est accusé de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, selon la procureure de la CPI. Les enquêtes vont se poursuivre en République démocratique du Congo. Madame Fatou Bensouda.
Nous allons continuer à enquêter en République démocratique du Congo. Et il y aura d'autres affaires. Cette cour a le pouvoir et le devoir en droit de mener des enquêtes et des poursuites lorsque personne d'autre ne rend justice aux victimes. Nous n'abandonnerons pas les victimes de crimes atroces, ni en République démocratique du Congo, ni en Afrique, et ni dans les 123 pays dans le monde qui sont membres de la CPI.
La défense de Bosco Ntaganda a dit n'avoir pas disposé assez de temps pour cette affaire. Maître Stéphane Bourgon, propos traduit par une interprète.
J'essaie d'aborder ce procès d'une manière responsable, puisque je suis le conseil principal de la défense de Bosco Ntaganda. On m'a donné le dossier l'année dernière, en août 2014. Depuis lors, plusieurs témoins ont été ajoutés et l'accusation s'appuie fortement sur ces témoins pour sa cause contre Bosco Ntaganda. Le volume des documents a triplé depuis janvier.
Quelle langue parle Bosco Ntaganda et quelle est sa réelle nationalité? Son avocat, Maître Stéphane Bourgon, répond.
La langue dans laquelle je parle avec M. Ntaganda, je parle en français. M. Ntaganda se considère comme un Congolais. M. Ntaganda vous dira peut-être demain quels sont et quels étaient ses objectifs en tant que Congolais. Bien qu'il parle Kinyarwanda, et demain il parlera en Kinyarwanda.
Pour Human Rights Watch, la comparution de Bosco Ntaganda est une victoire pour les victimes, pour leurs familles, ainsi que pour les militants des droits de l'homme à travers la République démocratique du Congo. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur la crise de l'immigration en Europe. Ces dernières semaines ont été marquées par de nouvelles tragédies humaines, de nombreux migrants venant du continent africain. Que peut et veut faire l'Europe pour régler le problème? Que pouvez-vous suggérer? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Une nuit infernale dans la capitale burundaise. Quasiment tous les quartiers contestataires n'ont pas fermé l'œil alors que crépitaient les armes lourdes automatiques de petit calibre et des grenades. Le bilan est de 4 morts au moins et plusieurs personnes ont été blessées dans les quartiers de Muzuga et Nyakabiga et Jabé. Depuis ce matin, la tension est montée d'un cran dans ces quartiers que les policiers avaient bouclés auparavant. Reportage à Bujumbura de Christophe Korundiza.
Des tirs à l'arme lourde et automatique ont été entendus dans plusieurs quartiers de la capitale mardi soir vers 21h. Les habitants des quartiers Nyakabiga, Jabé et Musaga n'ont pas fermé l'œil. Nombreux sont les citadins qui n'ont pas dormi chez eux. Depuis ce matin, la police a encerclé ces zones qui contestent depuis le mois d'avril dernier le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Cet habitant du quartier Jabé raconte son calvaire.
Depuis hier, ça a tiré. J'avais encore des choses à chercher à la boutique d'à côté. Je ne pouvais plus. me rendre sur la rue d'à côté. Et puis le matin, j'ai eu des problèmes de sortir. J'ai pu quand même sortir par après aux environs de 13 heures. Mais ça a été un vrai calvaire parce qu'on ne pouvait pas avoir où s'approvisionner dans Jabé. Il y avait des boutiques qui étaient fermées. Tout le monde était terré dans sa maison.
15 personnes ont été arrêtées selon le porte-parole adjoint de la police. Pierre Claver Ngourikié affirme qu'ils ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Mais il indique qu'il y a eu 2 morts et plusieurs blessés.
Il y a eu des criminels armés qui ont tenté de perturber la sécurité dans certaines localités de la capitale de Bujumbura. Les forces de l'ordre ont repoussé ces criminels et ont tiré sur un criminel qui est mort sur le champ. Les forces de l'ordre ont récupéré son arme et une grenade a également été saisie sur le lieu. Un autre criminel a été blessé, c'est toujours à Jabé, un autre criminel a été blessé et il a été appréhendé ce matin. 15 personnes ont été appréhendées par la police à Jabé et Nyakabiga. Et pour le cas de Moussaga, il y a eu également jet de grenades pendant la nuit. Pendant la journée aujourd'hui, au moment où les forces de l'ordre commençaient à faire des fouilles et perquisitions dans cette commune, ces criminels ont également lancé des grenades sur des policiers et 5 ont été blessés.
D'autres sources interrogées affirment que des policiers auraient été tués. Depuis la prestation de serment du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat contesté, la situation sécuritaire était demeurée relativement calme à Bujumbura. Mais la violence s'était intensifiée le jour où le président burundais avait annoncé qu'il briguait un 3e mandat qu'il a remporté au moment des élections en juillet dernier. Le CNARED, Conseil national pour le respect des accords de paix et de réconciliation d'Arusha, regroupant des opposants, ne cesse de crier au scandale. Ce conseil menace de prendre des mesures qui s'imposent, sans préciser lesquelles, pour sauver, je cite, la patrie d'une dérive totalitaire. Fin de citation. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le 17 mai prochain, journée mondiale des télécommunications, le Togo va primer ses lauréats du premier concours des applications innovantes. L'initiative veut permettre aux jeunes d'exploiter leur potentiel pour développer des applications utiles et contribuer à l'émergence de l'économie numérique au Togo. Dans un contexte où la connexion Internet fait souvent défaut, les développeurs se disent inquiets. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kayi Lawson.
Le Togo veut inciter ses développeurs à créer des applications utiles. Le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique a lancé à cet effet le concours des applications innovantes togolaises dénommé Apps Togo. Sina Lawson, ministre en charge de ce département.
Pourquoi Apps Togo ? En fait, nous sommes convaincus dans ce ministère que le Togo est un pays innovant, que les jeunes font beaucoup d'innovations et nous nous sommes dit que ce serait bien de leur donner l'opportunité de présenter les innovations qu'ils créent dans le domaine technologique puisque ce concours permettra de présenter une application mobile que les jeunes auront développée. J'aimerais vraiment qu'on puisse utiliser cette occasion pour soutenir quelqu'un ou des groupes de jeunes qui auraient vraiment des applications très très utiles et commercialement viables.
Dans le milieu des jeunes développeurs togolais, la nouvelle est bien accueillie. Séverin Lawson ne cache pas son enthousiasme.
C'est un bon concours pour encourager les jeunes développeurs comme moi parce que nous avons des idées mais que nous n'arrivons pas à faire montrer aux entreprises de la place. Donc je pense que grâce à ce concours, les jeunes talents pourront se montrer à la population.
À travers ce concours, les autorités togolaises veulent mettre en route l'économie numérique dans le pays. Honoré Fiadjo, coordonnateur national du programme de l'administration électronique.
Les applications que nous utilisons, généralement, sont des applications importées. C'est vrai qu'au Togo, il y a quelques développements, mais c'est encore timide. Nous ne consommons pas encore des produits togolais. Et le chantier est vaste, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'éducation. Nous avons un grand chantier de transformer notre Togo de façon numérique. Et d'ailleurs, il faut créer une économie numérique dans le pays. Je pense que par la mise en place d'applications, on peut aussi permettre aux jeunes de pouvoir gagner leur vie. En même temps, de faire en sorte que les investissements pour acheter les logiciels soient des investissements qui reviennent au Togo, pas des investissements qui vont ailleurs.
Même si les développeurs togolais trouvent en cette initiative une bonne opportunité pour pouvoir montrer leur ingéniosité, ils redoutent la qualité de la connexion Internet. Komla Ablorepe est un jeune développeur.
Les applications se font souvent par interaction, par l'Internet. Et aussi, le travail, souvent, on le fait via un serveur et qui nécessite une grande connexion. Donc notre difficulté actuelle, c'est la connexion.
Le concours Apps Togo va primer dans 3 catégories. Les 2 premières concernent les développeurs en individuel et en groupe. La 3e catégorie est réservée aux établissements d'enseignement supérieur. Kylerson Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
En Afrique du Sud, une motion de censure contre le président Jacob Zuma a échoué devant l'Assemblée nationale. La tentative d'hier mardi est la 2e de l'année. L'Alliance démocratique n'a pas réussi à chasser le président qu'elle accuse de violer la Constitution. Dili Diko a joint le professeur David Zoumenou d'Ossou à Pretoria.
Et l'opposition en Afrique du Sud, l'Alliance démocratique, a choisi d'engager la procédure de censure contre le président. On suit la base de ce qui s'est passé autour du président soudanais Omar al-Bashir lors de sa récente visite en Afrique du Sud lors du sommet de l'Union africaine.
Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette procédure a été entamée par l'opposition alors même qu'elle ne dispose pas de la majorité au Parlement ?
Eh bien, je pense que l'objectif initial, c'est l'objectif de l'opposition, n'est pas d'aboutir à une censure, à une destitution du président, mais simplement de chercher à porter l'attention du public sur les dérapages du gouvernement, à les enfler et à l'utiliser dans des calculs politiques qui visent à discréditer des problèmes qu'on découvre dans le fonctionnement des institutions de la République. Donc c'est en fait pour exposer les faiblesses de l'administration Zuma que cette procédure a été initiée.
Sur quels arguments l'ANC s'est-elle basée pour voter contre la motion de censure ?
Ben, pour l'ANC, premièrement, il s'agit simplement d'une tentative d'humiliation du gouvernement, d'une tentative de discrédit sur le gouvernement, sur l'administration Zuma. Et deuxièmement, beaucoup plus technique, c'est que l'ANC est convaincue que Zuma n'a rien fait de mal en soutenant Omar al-Bashir, en l'invitant en Afrique du Sud et en le protégeant peut-être contre l'avis de la justice lors de son départ précipité de l'Afrique du Sud. Et de ce fait, l'ANC ne pense pas que le président Zuma ait violé la Constitution ou les institutions de l'État et que l'Afrique du Sud a fait ce qu'elle a fait pour Omar al-Bashir dans le cadre des relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et l'Union africaine qui a donné mandat à l'Afrique du Sud d'accueillir les présidents et les autorités africaines sur son sol lors du sommet précédent.
C'est la fin de cette édition.
C'était le professeur David Zoumenou Dossou, joint à Pretoria.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news?
Alors Tatiana, je ne savais pas que Lionel aimait la country music et particulièrement Tim McGraw. Et il a choisi ce morceau pour mettre fin à l'édition d'aujourd'hui.
Exactement, en compagnie de Tatiana Mosso et de chérubin Gabi Dorsil.
On remercie aussi notre ami Misha Dobinski à la console et à toi aussi, merci Lionel Gaïma. Ainsi va le monde aujourd'hui, retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.